Anton Tchekhov, Le moine noir. André Vassilievitch Kovrine, agrégé de philosophie, était fatigué. Il se sentait les nerfs un peu malades. Un médecin de ses amis lui conseilla, comme il causait en un verre de madère, un séjour de quelques mois à la campagne. Justement, Kovrine venait de recevoir une lettre par laquelle Tania Pesotsky l'invitait à venir passer quelque temps à Boryskova, et il décida qu'un petit voyage y ferait en effet le plus grand bien. On était alors au mois d'avril. André se rendit tout d'abord à sa petite propriété de Korinka, où il demeura dans la solitude pendant 3 semaines. Puis, au premier beau jour, il partit pour aller voir son ancien tuteur qu'il avait élevé, Pesotsky, un horticulteur bien connu en Russie. Une distance de quelque 70 kilomètres séparait Korinka de Borisovka, où vivaient les Pesotsky, et ce lui fut un vrai plaisir d'accomplir ce court trajet dans une confortable voiture par un chemin vert et fleuri. La maison de Pesotsky était spacieuse. Une colonnade en ornait la façade et 2 lions de plâtre, dont l'enduit s'écaillait par place, flanquaient la porte d'entrée où se tenait un laquais en habit noir. Un vieux parc, triste et sévère, destiné à la française, s'étendait à 1 bon kilomètre de la maison jusqu'à la rivière. Il se terminait là par une berge abrupte où broissaient des pins dont les racines nues étaient pareilles à des pattes velues. Au-dessous luisait la surface morne de l'eau, et des bécassines voletaient avec des cris plaintifs. Une telle mélancolie imprégnait ce paysage qu'il inspirait l'envie de composer des ballades. En revanche, tout près de la villa, dans la cour et dans le verger, qui avec ses nombreuses pépinières occupait un espace d'une 30 hectares, tout respirait la gaieté et la joie de vivre, même par les temps les plus sombres. Nulle part ailleurs André n'avait vu des roses, des lys, des camélias aussi merveilleux, ni des tulipes aussi diverses de couleurs, depuis les blanches comme du lait jusqu'au noir comme du charbon. Jamais il n'eût imaginé une telle opulence florale. Le printemps commençait à peine et les vrais trésors du jardin étaient encore abrités dans les serres chaudes. Mais les plantes qu'on voyait fleurir le long des allées dans les plates-bandes suffisaient pour transporter le promeneur dans un royaume de couleurs tendres, surtout aux heures matinales où chaque pétale étincelle de rosée. Ce qui jadis, en son jeune âge, produisait sur Kovrine une impression presque féerique, c'était la partie décorative du jardin, ce que le propriétaire appelait lui-même dédaigneusement « des bagatelles ». Quelle forme bizarre n'y voyait-on pas ? Quelle monstruosité raffinée, quelles inversions de la nature ! Il y avait là des arbres à fruits écartelés contre les murs, un poirier pyramidal, des chênes et des tilleuls sphériques, un pommier épanoui comme une ombrelle, des arcades, des monogrammes, des candélabres, jusqu'au chiffre 1862, figuré avec des pruniers qui marquaient la date où Pesotsky avait commencé à s'occuper d'horticulture. Ça et là surgissaient de jeunes arbres, jolis et sveltes, droits et robustes, et ce n'était qu'en les examinant de près que l'on reconnaissait en eux des groseilliers à grappes blanches ou rouges. Mais ce qui, par-dessus tout, animait le jardin, ce qui lui donnait un aspect joyeux, c'était le mouvement continuel qui s'y remarquait. De l'aube à la nuit, des hommes armés de pelles, de brouettes et d'arrosoirs se démenaient comme des fourmis autour des arbres, dans les allées, dans les plates-bandes. Il était déjà 10 heures du soir lorsqu'André arriva chez les Pesotsky. Il trouva Mademoiselle Tania et son père Yegor Semyonovitch très inquiets l'un et l'autre. Un ciel clair, étoilé, et d'accord avec le thermomètre lui-même, annonçait une gelée pour le matin. Et le jardinier en chef, Ivan Karlovitch, était parti pour la ville, et personne sur qui l'on put compter pour prendre les précautions nécessaires. Pendant le souper, la conversation ne roula que sur la gelée imminente. Il fut décidé que Tania ne se coucherait pas. À 1 heure du matin, elle ferait un tour de verger pour surveiller le travail des ouvriers. Son père devait se lever à 3 heures. Kofrine passa toute la soirée à causer avec Tania et à minuit passé, il accompagna la jeune fille dans le jardin. Il faisait froid. Une forte odeur de brûlé remplissait déjà la cour. Dans le grand jardin fruitier, qui rapportait net à son propriétaire plusieurs milliers de roubles par an, une épaisse fumée s'étendait sur la terre et, enveloppant les arbres, devait les préserver de la gelée. Les arbres étaient disposés comme sur un damier. Leurs lignes droites et régulières faisaient songer au rang d'une armée, et cet ordre géométrique, leur hauteur identique, la similitude absolue de leur tronc et de leur cime, tout donnait à ces tableaux quelque chose de monotone et même de fastidieux. Kovrin et Tania parcoururent les rangées, parmi lesquelles s'étalaient des tas de paille et d'ordures. Ça et là, des ouvriers erraient dans ce brouillard, semblables à des ombres. Les cerisiers, les pruniers, certaines espèces de pommiers étaient seuls en fleurs, mais tout le verger était comme noyé sous la fumée, et ce ne fut qu'en arrivant auprès des pépinières que le jeune homme put enfin respirer librement. Déjà dans ma première enfance, cette fumée me suffoquait, dit-il en haussant les épaules. Et j'en suis encore à me demander comment elle peut garantir les arbres du froid. Mais c'est qu'elle tient lieu des nuages. Lorsqu'il n'y en a pas, répondit la jeune fille. Et à quoi servent les nuages? Mais par un temps sombre et couvert, la gelée matinale n'est pas redoutée. Ah, voilà donc. Il prit en riant la main de la jeune fille. Son visage, rosi par le froid, à l'expression réfléchie, aux sourcils fins et noirs, le col relevé de sa veste, qui l'empêchait de tourner la tête, sa silhouette gracile, jusqu'à sa robe relevée à cause de la rosée, tout en elle attendrissait Kovrine. « Bon Dieu, la voici déjà tout à fait grande, » fit-il. « Lorsque j'ai quitté ce pays pour la dernière fois, il y a 5 ans, vous étiez encore une fillette. Je vous revois encore, malgré les jambes longues, toujours sans chapeau, avec votre petite robe courte. Je vous taquinais sans cesse en vous appelant le héron. Comme le temps passe. Je crois bien, 5 ans, dit Tania en poussant un soupir. Il a coulé depuis beaucoup d'eau sous le pont. Dites-moi, André, la main sur la conscience, reprit-elle en s'animant. Vous êtes bien déshabitué de notre compagnie, n'est-ce pas? D'ailleurs, pourquoi vous le demandez? Vous êtes un homme, vous menez une vie à part, bien plus intéressante que la nôtre. Vous êtes quelqu'un, déjà. Quoi de plus naturel que de quitter les siens? Car, André, quoi qu'il en soit, je veux croire que vous nous considériez comme les vôtres. Nous en avons acquis le droit. Et c'est ce que je fais, Tania. Parole d'honneur? Mais parole d'honneur, si vous voulez. Vous avez exprimé aujourd'hui votre surprise de voir chez nous autant de vos portraits. Mais vous savez bien que mon père vous adore. Il me semble parfois qu'il vous préfère à moi, sa fille. Il est fier de vous, André. Vous êtes un savant, un homme hors ligne. Vous avez su vous créer une carrière brillante. Il est persuadé que vous devez ce résultat à ses leçons. Je ne cherche pas à lui ôter cette conviction, qu'il le pense, puisque cela lui fait plaisir. Le jour commençait à poindre. De plus en plus net se dessinaient dans l'atmosphère les colonnes de fumée, les cimes des arbres. Des rossignols chantaient, les cris des cailles s'éveillaient dans la campagne. « Il est temps d'aller se coucher, » dit Tania. « Et puis, il fait pas chaud. » Elle prit le bras de Kovrine et continua. « Merci tout de même, André, merci d'être venu. Nos relations ne sont pas très intéressantes et très nombreuses. Nous n'avons que le jardin, et c'est tout. Hauteur, demi-hauteur, rainette, Canada, hybridation, oculation, tout le jour n'entend que cela, ajouta-t-elle en riant. Toute notre vie est là, tout absolument. Croirez-vous que j'en sois arrivé à ce point de ne plus voir en songe que des pommes et des poires? Tout cela, certes, est bon et utile, mais parfois, le désir vous prend d'avoir autre chose pour changer un peu. Jadis, bon, je m'en souviens, quand vous nous arriviez pour les vacances ou que vous veniez tout simplement passer quelques jours avec nous, la maison devenait tout à coup plus joyeuse, plus fraîche, comme si l'on avait débarrassé meubles et lustres de la rousse. J'étais encore bien petite alors, mais je comprenais déjà. Elle parla longtemps avec la même chaleur. Coveril l'écoutait, et l'idée soudaine lui vint que, dans le courant de l'été, il pourrait s'attacher à cette frêle et babillarde créature, qu'il pourrait même finir par en tomber amoureux. Dans les conditions où ils se trouvaient l'un et l'autre, quoi de plus facile et de plus naturel? Cette pensée lui sembla tout à la fois drôle et attendrissante. Il se pencha vers ce visage doux et grave et murmura « Onegin, je ne veux plus vous le taire. Tatiana est ma bien-aimée. » Lorsque tous deux rentrèrent enfin, Yegor Semyonovitch était déjà levé. Corinne n'avait point sommeil. Il se mit à causer avec le vieillard et le suivit dans le jardin. Pesotsky était grand et carré des épaules. Malgré sa corpulence et l'asthme dont il souffrait, il marchait si vite qu'on avait de la peine à le suivre. Excessivement affairé, il avait toujours l'air de se hâter. Sa physionomie semblait dire incessamment qu'il n'y avait pas une minute à perdre, ou tout serait perdu. « Singulier phénomène, mon ami, » commença-t-il en s'arrêtant pour reprendre haleine. « Sur la surface de la terre, il gèle, comme tu vois, mais tu n'as qu'à relever un peu le thermomètre pour reconnaître qu'à la hauteur d'une toise, il fait déjà chaud. D'où vient cela ?»« Ma foi, je n'en sais rien, » répondit Kovrine. « On ne peut jamais tout savoir, c'est évident. Si vaste que soit l'esprit, impossible d'y loger tout. Il paraît d'ailleurs que la philosophie t'intéresse plus spécialement, n'est-ce pas ?»« Oui, j'enseigne la psychologie, mais je m'occupe de philosophie en général. »« Mais cela ne t'ennuie pas ?»« Au contraire, cela me passionne dans la vie. »« Eh bien, tant mieux, » dit Igor, en promenant sa main sur ses favoris d'un air pensif. « Tant mieux, j'en suis très content pour toi, mon garçon. » Mais soudain, il tendit l'oreille. Puis, la mine féroce, il s'élança et disparut derrière les arbres dans un nuage de fumée. « Mais qu'est-ce qui a bien pu s'attacher son cheval à ce pommier ? » l'entendit-on crier tout à coup d'une voix navrante et désespérée. « Quel est le misérable ? Quel est le vaurien qui a osé ?» « Oh, mon Dieu, me voilà qu'ils me l'ont gâté, abîmé, perdu. Oh, mon pauvre jardin, c'en est fait de lui. Mon Dieu, mon Dieu !» Lorsqu'il joignit enfin Kovrine, il avait la figure décomposée comme si quelqu'un venait de lui faire un affront. « Impossible de vivre avec ces idiots » cria-t-il presque en pleurant et les bras grands ouverts. Cet imbécile divan, après avoir toute la nuit transporté du fumier, n'a-t-il pas fini par attacher son cheval à un de mes plus beaux arbres? Et il faut voir comme ce buteur avait serré les guides, si bien que l'écorce en a crevé à trois endroits. Qu'en dis-tu, hein? Je lui adresse la parole et lui reste comme une bûche en secouant les oreilles. Bon, les pendre, ça serait pas encore assez. Mais un peu calmé, le bonhomme pressa Corinne contre son cœur et l'embrassa tendrement sur les deux joues. « Eh bien, tant mieux, tant mieux !» murmura-t-il, comme s'il reprenait la causerie interrompue. « Je suis très heureux de te voir chez moi. Je te remercie. » Après quoi, il poursuivit de son allure sautillante avec le même air affairé l'inspection de son jardin. Il montrait à son ancien élève toutes les orangeries, les serres chaudes, les potagers, et enfin ces deux ruches d'abeilles, qu'il appelait lui-même la merveille de notre siècle. Pendant qu'il marchait de la sorte, le soleil s'était levé. Il éclairait maintenant le jardin de sa vive et chaude lumière. En prévoyant une longue journée claire et joyeuse, Coverine songea que le mois de mai commençait à peine et qu'il avait devant lui toute la saison d'été, aussi claire, aussi joyeuse et aussi longue. Et tout à coup, il sentit son cœur dilaté par un sentiment de jeune allégresse, le même sentiment qu'il éprouvait dans son enfance alors qu'il jouait par les allées de ce jardin. À son tour, il s'approcha du vieillard et l'embrassa avec effusion. Aussi émus l'un que l'autre, ils rentrèrent à la maison et se mirent à prendre leur thé, servi dans une fine tasse en vieille porcelaine, avec de la crème et d'excellents petits pains sucrés. Et ces mêmes détails rappelèrent de nouveau à Coverine ses heures d'enfance. Les délicieux instants qu'il revivait là et les souvenirs du passé qui se réveillaient en lui se fondaient ensemble, et il en avait l'âme pleine, pleine à déborder, mais cela même lui faisait du bien. Il attendit que Tania fût levée, prit une tasse de café avec elle et, après une courte promenade, se retira dans sa chambre pour étudier. Il lisait avec une attention soutenue, en se formulant des remarques. De temps à autre, il levait les yeux pour jeter un coup d'œil au dehors par la fenêtre ouverte ou admirer les vases de fleurs fraîches, encore humides de rosée, qui décoraient la table. Puis il se replongeait dans son livre et lui semblait que chacun de ses nerfs vibrait, frémissait de bonheur. Coverine continuait à la campagne la même vie nerveuse et agitée qu'il menait dans la capitale. Il lisait, écrivait beaucoup. Il étudiait l'italien et quand il se promenait, il se réjouissait par avance de se remettre au travail bientôt. Il dormait si peu que chacun s'en étonnait. Si d'aventure il lui arrivait de s'assoupir une demi-heure dans la journée, il ne fermait pas l'œil de la nuit. Et après une longue insomnie, on le voyait joyeux et dispos comme si de rien n'était. Il causait beaucoup, buvait du vin et fumait de bons cigares. Les Pezotsky recevaient souvent, presque tous les jours, les jeunes filles du voisinage qui chantaient et jouaient du piano avec Tania. Quelquefois se joignait à leur groupe un voisin, un jeune homme, qui maniait assez bien l'archet. Coverine écoutait la musique et le chant avec une belle avidité qu'il s'en empâmait, les yeux clos et la tête penchée. Un soir, à l'heure du dîner, il était sur le balcon et lisait. Au salon, Tania, qui avait un joli soprano, une de ses amies, un contralto et le jeune violoniste étudiaient ensemble la fameuse sérénade de Braga. Coverine faisait effort pour saisir le sens des paroles, qui étaient russes pourtant, et ne parvenait pas à le pénétrer. Enfin, après avoir rejeté son livre et concentré son attention, il put comprendre. Il s'agissait d'une jeune fille à l'imagination malade. Elle entendait au jardin, par la nuit, des sons mystérieux, si beaux et si étranges qu'elle croyait ouïr une harmonie céleste, inintelligible aux simples mortels. Les yeux de Coverine commençaient à se fermer. Il se leva et, en proie à une faiblesse inexplicable, il fit quelques pas dans le salon et dans la pièce voisine. Lorsqu'on eut fini de chanter, il prit le bras de Tania et s'enfuit avec elle sur le balcon. « Depuis ce matin, une légende me hante l'esprit, lui dit-il. Je ne me rappelle pas si je l'ai lu quelque part ou si je l'ai ouï conter, mais c'est une légende des plus singulières et absolument insensées. D'abord, elle n'est pas très claire. Il y a 1000 ans de cela, un moine vêtu de noir traversait un désert, je ne sais où, en Syrie ou en Arabie. À quelques lieues de cet endroit, Des pêcheurs virent un autre moine noir qui s'avançait lentement sur la surface du lac. Cet autre moine-là n'était qu'un mirage. Maintenant, tâchez d'oublier toutes les lois de l'optique et puis écoutez. Ce mirage en créa un second, lequel créa un troisième, et ainsi de suite à l'infini, de sorte que l'image du moine noir se propageait d'une couche atmosphérique à l'autre. On le voyait tour à tour en Afrique, en Espagne, aux Indes, dans l'extrême nord. Enfin, il franchit les limites de l'atmosphère terrestre, et à présent il erre par tout l'univers, sans jamais réussir à rencontrer un milieu atmosphérique propre à le dissiper. On l'aperçoit peut-être maintenant dans la planète Mars ou dans une étoile de la Croix du Sud. Mais ma petite amie, voici l'essentiel, le nœud pour ainsi dire de la légende. Juste 1000 ans après le passage du moine dans le désert, le mirage doit retomber dans l'atmosphère terrestre et se montrer aux hommes encore une fois. Et ce millier d'années toucherait à sa fin. D'après le sens de la légende, nous devons nous attendre à voir ce moine apparaître un de ces jours. Un drôle de mirage, dit Tania, qui semblait ne point goûter cette merveilleuse histoire. Le plus étonnant, reprit Coverine, c'est que je ne puis pas me rappeler d'où elle me vient. L'aurais-je lu ou entendu? Ou peut-être le vis-je en rêve, ce moine noir? Je vous jure que je ne m'en souviens pas. Cette légende m'intéresse tout de même. J'y ai pensé toute la journée. Après avoir quitté la jeune fille qui s'enfuit rejoindre ses hôtes, Coverine, toujours songeur, fit le tour des parterres. Le soleil déclinait déjà. Les fleurs qu'on venait d'arroser exhalaient un parfum suave et irritant. De nouveau, la musique résonna dans la villa Pesotsky. Les accords lointains du violon donnaient l'impression d'une voix humaine. En cherchant à se rappeler où il avait lu ou entendu la légende, Coverine se dirigea lentement vers le parc et, sans qu'il s'en fût aperçu, il se trouva au bord de la rivière. Par un sentier pratiqué dans la berge escarpée, il passa devant les racines à nu des pins et descendit jusqu'au bord de l'eau, où son apparition troubla les bécassines et fit partir un couple de canards. Les derniers rayons du soleil couchant se jouaient sur les cimes des pins qui décoraient ce paysage mélancolique, alors que la surface de la rivière était déjà tout à fait ténébreuse. Par un petit pont qui reliait les deux rives, André passa de l'autre côté. Devant lui s'étendait maintenant un vaste champ de seigle vert. Pas une maison alentour, pas une âme vivante. À voir cet interminable sentier, on eût pensé qu'il menait vers la contrée mystérieuse où le soleil s'était couché tout à l'heure, vers le lointain horizon où flamboyait splendide la pourpre du soir. Quel silence, quelle liberté, comme on est bien ici, songeait Coverine en cheminant. Il me semble que tout l'univers me regarde, attendant que je le comprenne. Mais voilà que des ondes coururent sur les épis de seigle et une brise légère effleura la tête nue de Coverine. Au bout de quelques minutes, un nouveau coup de vent, déjà plus fort. Le seigle se mit à bruire et le murmure sourd des pins arriva aux oreilles du jeune homme. Étonné, il s'arrêta. Une grande colonne sombre, pareille à un tourbillon ou à un cyclone, se dressait de la terre jusqu'au ciel. Les contours n'en étaient point nettement dessinés, mais on voyait qu'elle ne demeurait pas en place, qu'elle avançait au contraire avec une vitesse prodigieuse, et précisément de ce côté-ci, droit sur Coverine. Plus elle se rapprochait, plus claire et moins grande elle devenait. André n'eut que le temps de se jeter hors du chemin dans le seigle pour faire place à la colonne. Un moine en robe noire, à la tête blanche et aux sourcils noirs, les bras en croix sur la poitrine, passa rapidement devant lui. Ses pieds nus ne touchaient pas la terre. Quand il se fut éloigné à une distance de quelques mètres, Il se retourna et regarda Coverine. Il lui fit un signe et lui adressa un sourire en même temps affable et malin. Mais quel visage pâle, infiniment pâle et décharné! De nouveau, il grandit, passa au-dessus de la rivière, se heurta doucement contre la berge abrupte et contre les pins, glissa entre les branches et s'évanouit dans l'espace comme un tourbillon de fumée. « Voyez-vous cela ?» murmura Coverine. « Mais il y a donc une part de vérité dans la légende. » Sans se donner la peine d'expliquer ce phénomène, satisfait d'avoir observé de si près et si bien non seulement la robe noire du moine, mais encore sa figure et ses yeux, il revint à la maison dans un délicieux émoi. Il traversa le parc et le jardin. Des hommes allaient et venaient. La musique résonnait toujours dans la villa. Il était clair que lui seul avait vu passer le moine. Il avait envie de tout raconter à Tania et à son père. Mais il se dit qu'il le prendrait son récit pour une divagation et qu'il s'en effraierait. Il valait donc mieux garder le silence. Très animé, il chanta, dansa, rit, pétilla de gaieté. Chacun lui trouvait une physionomie inspirée et radieuse, et des façons tout à fait séduisantes. Après le souper, lorsque les invités furent partis, Coverine se retira dans sa chambre et s'étendit sur le canapé. Il avait envie de penser au moine. Mais une minute s'était à peine écoulée que Tania survint. « André, pouvez-vous lire les articles de mon père ?» dit-elle en lui tendant une liasse de brochures et d'épreuves. « Il écrit fort bien. »« Oh, par exemple !» fit en surgissant derrière sa fille Igor Semyonovitch avec un rire forcé. Il semblait être un peu gêné. « Ne l'écoute pas, je t'en prie, te donne pas la peine de lire cela. »« Tu peux d'ailleurs, si tu veux t'endormir, c'est un excellent narcotique. »« Moi, je trouve ces articles très bons, » répéta la jeune fille d'un air convaincu. « Lisez-les donc et décidez mon père à écrire plus souvent. Il serait fort capable de rédiger un cours d'horticulture. » Igor Semyonovitch devint tout rouge et se mit à balbutier de ces phrases comme en débitent les auteurs confus. Enfin, il céda. « Bon, mais alors dans ce cas, il faut que tu lises d'abord cet article de Gaucher et ces petites notices russes, » murmura-t-il en feuilletant les brochures de ses mains tremblantes. « Sinon, tu y comprendrais goutte. Avant de lire ma réfutation, il faut connaître ce que je réfute. Mais ce sont là de pures billevesées, joliment fastidieuses. Et puis, n'est, je crois, que temps de se coucher. » Tania sortit. Son père s'installa sur le canapé à côté de Coverine et poussa un profond soupir. « Oui, mon garçon, » commença-t-il après un court silence, « voilà comment vont les choses, mon cher docteur. J'écris des articles, j'expose, je reçois des médailles. Ce Pezotsky a des pommes grosses comme la tête. Pezotsky a fait fortune avec son jardin. Bref, c'est un heureux mortel que ce Pezotsky. Mais je me demande, à quoi bon tout cela? Il est vrai que le jardin est beau, un vrai modèle. C'est pas un jardin, c'est un établissement qui offre même une certaine importance au point de vue social, car il constitue, pour ainsi dire, le premier pas vers une ère nouvelle de la culture et de l'industrie nationale. Mais à quoi bon? Les résultats sont trop évidents. Non, c'est pas cela que je veux dire. Je me demande simplement ce que deviendra le jardin lorsque je serai mort. Quand je ne serai plus là, il ne restera pas seulement un mois dans le même état. Le vrai secret du succès, vois-tu, ce n'est pas la vaste superficie du jardin ni le grand nombre des ouvriers. C'est l'amour que j'ai pour mon art. Je l'aime plus que moi-même. Remarque un peu, c'est moi qui fais tout. Je travaille depuis le matin jusqu'au soir. Les greffes, les mondages, les plantations, je fais tout de mes propres mains. Si on veut m'aider, j'en conçois de la jalousie et je m'irrite au point d'en devenir grossier. Tout le secret, c'est l'amour. c'est-à-dire l'œil vigilant du maître, son travail personnel, et le sentiment particulier que l'on éprouve quand on s'absente une heure pour aller voir un de ses amis, par exemple. Si tranquille que l'on paraisse, on est comme une âme en peine. On se demande tout le temps si rien d'extraordinaire n'est arrivé au jardin depuis qu'on l'a quitté. Quand je serai mort, qu'est-ce qui veillera sur le jardin? Qu'est-ce qui fera la besogne? Sera-ce le jardinier? Seront-ce les ouvriers? Oui? Oh, alors voici ce que je te dirai, moi, mon cher ami. L'ennemi le plus redoutable dans notre art, ce n'est pas le lièvre, ni le ténébrion, ni le froid. C'est le mercenaire, c'est l'étranger. Mais Tania, demanda Coverine en riant, il est impossible qu'elle soit plus à craindre qu'un lapin. Elle aime et comprend cet art, elle. Oui, certes, elle aime l'art et le comprend. Si c'est elle, après ma mort, qui doit avoir le jardin, qui doit en être la maîtresse, il est certain qu'il ne restera plus rien à désirer. Mais si, à Dieu le plaise, elle se mariait, murmura Yegor Semyonovitch en jetant sur Coverine un coup d'œil effaré. Voilà le hic. Une fois mariée, elle aura des enfants, et alors elle aura plus le loisir de songer aux arbres fruitiers. Il y a une chose que je crains par-dessus tout, c'est qu'elle épouse un gaillard qui, poussé par l'amour du lucre, loue mon jardin aux maraîchères. Alors, tout s'en ira au diable dès la première année. Dans notre métier, c'est un vrai fléau que ces bonnes femmes. Yegor Semyonovitch poussa un soupir. Et après un moment de silence, il reprit. C'est peut-être de l'égoïsme, André, mais je te le dirai franchement. Je veux pas que Tania se marie. J'ai peur. Il y a ici un jeune homme qui vient souvent racler du violon. Je sais que Tania ne voudra jamais l'épouser, je le sais bien, et cependant, je ne peux pas le voir en peinture. Au total, mon ami, je suis un drôle de corps, oh, je l'avoue. Pesotsky se leva et, tout ému, fit le tour de la chambre. On voyait bien qu'il avait encore une chose à dire, la plus importante sans doute, mais qu'il n'arrivait point à se décider. Je t'aime beaucoup, et je veux te parler à cœur ouvert, dit-il enfin, en fourrant d'un geste décidé ses deux mains dans ses poches. Vois-tu, il y a des questions délicates que j'ai coutume d'aborder en formulant tout net ma pensée, car je déteste ce qui ressemble à une réticence. Or, je te le déclare franchement, tu es le seul homme auquel je donnerai ma fille sans la moindre inquiétude. Tu es intelligent, tu as du cœur. Tu ne voudrais pas laisser perdre ce que j'appelle mon œuvre et ce qui est l'essentiel. Je t'aime comme si tu étais mon fils. Je suis fier de toi. Si d'aventure les choses en étaient là, si vous vous conveniez, Tania et toi, et s'il en était sorti un roman, eh bien, j'en serais fort content et même très heureux. Oh, je te le dis tout simplement, à cœur ouvert, en honnête homme. Coverine ne put s'empêcher de sourire. En ouvrant la porte pour se retirer, le vieillard s'arrêta encore une fois sur le seuil. Mais si le hasard voulait que vous eussiez un fils, Tania et toi, je ferais de lui un horticulteur, moi, reprit-il après avoir réfléchi. D'ailleurs, ce sont là des rêves. Allez, bonne nuit. Resté seul, Coverine s'étendit commodément et se mit à parcourir les brochures. Une portait ce titre, de la culture alternante, une autre, quelques mots à propos de la remarque de M. Z sur le binage, une troisième, encore quelques mots sur l'oculation des pensées, et le reste à l'avenant. Mais quel ton péremptoire, quelle irritation, quelle véhémence peu naturelle! Voilà une brochure au titre absolument anodin, n'étudiant rien d'autre chose que la manière de cultiver une des variétés du pommier russe. Et cependant, l'auteur débute par « Audiatur altera pars » et conclut par « Sapienti sat » et entre ces deux sentences, une source intarissable de railleries décochées à l'ignorance savante de nos horticulteurs patentés qui observent la nature sans quitter leur chair, ou bien un monsieur gaucher dont le succès n'est dû qu'à des profanes et à des dilettantis. Combien tout cela est excessif, jusqu'au regret de ne plus pouvoir fustiger les paysans qui volent des fruits et abîment les arbres. Voilà, certes, un art sain et attrayant, mais là non plus, les passions et les goûts de la chicane ne chôment point, songea à Cloverine. Il paraît que tout homme de pensée se restreint soit le champ de son activité, à les nerfs à vif et la sensibilité suraiguë, est sans doute nécessaire. Et il se souvint de Tania, qui trouvait si intéressant les articles de son père. D'une taille assez exiguë, toujours pâle et maigre à ce point qu'on voyait ses os, elle avait des yeux foncés, largement ouverts, pleins d'intelligence, qui semblaient toujours examiner ou chercher quelque chose. Elle marchait comme son père, à pas menus et toujours d'un air pressé. Tania aimait fort à discuter et en parlant, elle accompagnait chaque phrase de gestes expressifs. Elle était visiblement bien nerveuse, elle aussi. Cloverine revint à sa lecture, mais n'y comprit pas grand-chose et mit les brochures de côté. Cette surexcitation qui le charmait tout à l'heure, quand il écoutait la musique et dansait la mazurka, lui était maintenant pénible, en éveillant dans son esprit une multitude de pensées à la fois. Il se leva et se promena dans la pièce, toujours songeant au moine noir. L'idée lui vint que personne hors lui, n'ayant vu l'étrange phénomène, il était donc bien malade pour en être tombé aux hallucinations. Cette idée l'effraya d'abord, mais pas beaucoup, ni longtemps. Puisque cela me fait du bien, sans faire du mal à personne, je n'ai pas à m'inquiéter de mes hallucinations, se dit-il. Et de nouveau, il fut heureux. Il s'étendit sur le canapé, se prit le front à deux mains, comme pour retenir l'allégresse qui remplissait tout son être sans qu'il en pénétrât la cause. Ensuite, il se promena encore un peu dans la pièce et se mit à travailler. Mais les pensées qu'il trouvait dans ses livres ne le satisfaisaient point. Il appelait de ses voeux quelque chose de sublime, de gigantesque, d'immense. Au point du jour, il se déshabilla et se coucha bien à contre-cœur. Il fallait tout de même dormir. Lorsque Cloverine entendit les pas de Yegor Semyonovitch dans la maison, il sonna et prit le domestique de lui servir du vin. Il but avec plaisir quelques verres de bon vin rouge, puis il ramena ses couvertures jusque par-dessus la tête, ses idées s'embrouillèrent, et il s'assoupit. Bessotsky et sa fille se querellaient souvent, et ils se disaient alors toutes sortes de choses désagréables. Un matin, après une de ces discussions, Tania fondit en larmes et se retira dans sa chambre. Elle ne descendit ni pour le dîner ni pour le thé du soir. Yegor Simonovitch, qui d'abord se promenait d'un air grave et mécontent, comme s'il voulut prendre chacun à témoin que la justice et l'ordre lui importaient plus que toute autre chose, perdit bientôt sa belle assurance. La mine abattue, il errait dans le parc et l'on l'entendait répéter en soupirant « Oh mon Dieu, mon Dieu !» À dîner, il ne put absolument rien manger. Enfin, se sentant coupable et tourmenté par le remords, le vieillard alla frapper à la porte fermée. « Tania, dis-moi, Tania » appela-t-il doucement. Mais de l'intérieur, une voix languissante, comme trempée de larmes et ferme néanmoins, lui répondit « Laisse-moi tranquille, je vous en conjure !» L'humeur des maîtres se réfléchissait par toute la maison, jusque chez les ouvriers qui travaillaient au jardin. Cloverine, qui, ce jour-là, s'absorbait dans un travail intéressant, finit lui aussi par se sentir mal à l'aise. Pour calmer un peu l'irritation générale, il résolut d'intervenir dans le conflit, et à la tombée du jour, il vint frapper à la porte de Tania. La jeune fille lui ouvrit. « Oh, mais que c'est honteux » commença-t-il sur le ton de la plaisanterie, en voyant à sa grande surprise le visage rougi par les larmes et la mine désolée de la jeune fille. « Mais est-ce vraiment si sérieux ?»« Mais si vous saviez seulement comme il me tourmente, » lui dit Tania. Et des larmes, de grosses larmes chaudes jaillirent de ses larges yeux. « Me voilà dans un bel état, » poursuivit-elle en se tordant les mains. « Moi, mais je ne lui ai rien dit du tout, rien du tout. J'ai insinué seulement qu'on n'avait pas besoin de garder tant d'ouvriers, puisqu'on peut trouver des travailleurs à la journée. » Voilà plus d'une semaine que les jardiniers n'ont plus rien à faire. Mais je n'ai dit que cela, rien que cela. Et lui, alors il s'est emporté, il m'a jeté à la face tant de choses blessantes, mais pourquoi ? Assez, assez, dit Coverine, en rajustant avec sa main les cheveux de la jeune fille. Vous vous êtes querellée, vous avez pleuré, bon ben assez maintenant. Voyons, il ne faut pas être resté fâché aussi longtemps, c'est pas bien. D'autant plus que vous le savez bien, il vous aime infiniment. Mais il a gâté ma vie, reprit Tania, toujours en larmes. Je n'entends plus jamais que des injures et des insultes. Il me considère comme étant de trop ici. Eh bien, il a raison, je vais partir dès demain. Je me ferai télégraphiste, soit. Allons, allons, Tania. Voyons, il ne faut pas sangloter de la sorte. Il ne faut pas, ma chérie. Tous les deux, vous avez le sang chaud, vous vous emportez facilement, et vous avez tort l'un et l'autre. Alors, allez, je vais vous réconcilier. » Coverine parlait d'un ton câlin et persuasif. La jeune fille continuait à gémir, des frissons lui secouaient les épaules, et elle crispait ses mains comme si un grand malheur l'avait frappée. La pitié que le jeune homme éprouvait pour elle était d'autant plus vive que, tout en jugeant futile à cause de sa peine, il savait bien qu'elle souffrait profondément. Il fallait si peu de choses pour rendre malheureuse toute une journée, toute sa vie peut-être, une créature aussi frêle. Tandis qu'il s'efforçait de consoler Tania, Coverine se disait qu'en dehors de cette jeune fille et de son père, il lui serait impossible de trouver dans le monde entier des êtres qui le chérissent aussi tendrement. Sans eux, lui, qui avait tout jeune perdu ses parents, n'aurait-elle jamais su le prix d'une caresse désintéressée, de cet amour naïf qui ne résonne point, de cette affection que l'on éprouve uniquement pour ses proches. Et il sentait que les nerfs de cette femme frémissante et affligée attiraient ses propres nerfs à demi-malade, comme l'aimant attire le fer. Il n'eût jamais aimé une femme bien portante, robuste, aux joues roses. Mais cette pauvre Tania, si faible et si pâle, lui plaisait positivement. Il prenait plaisir à lui caresser les cheveux, à lui presser les mains, à essuyer ses larmes. Enfin, elle cessa de pleurer. Longtemps encore, elle se plaignit de son père, de la vie pénible, insupportable qu'elle menait dans cette maison. Peu à peu, elle se prit à sourire, à déplorer en soupirant que le bon Dieu lui ait donné un si mauvais caractère, et finalement elle éclata de rire, se qualifia de pécor et quitta la chambre en courant. Lorsqu'au bout de quelques minutes, Coverine s'enfuit dans le jardin, Yegor Semyonovitch et sa fille se promenaient côte à côte comme si de rien n'était, en dévorant une tranche de pain bis avec du sel, car ils avaient grand faim l'un et l'autre. Très content d'avoir si bien rempli sa mission, Coverine se dirigea vers le parc. Là, sur un banc, seul et rêvant à son aise, il perçut bientôt un bruit de voiture et des rires de femmes. C'était sûrement des visites. Lorsque les ombres du soir enveloppèrent les massifs, on entendit au loin des sons de violon et des voix qui chantaient. Cela le fit songer au moine noir. Où donc pouvait-elle être maintenant, cette illusion optique? Dans quel pays irait-elle à présent, et sur quelle planète? Mais à peine avait-il eu le temps de se remémorer la légende merveilleuse et de reproduire dans son imagination l'image sombre apparue dans le champ de seigle vert, que déjà, en face de lui, surgissait de derrière un pin et s'avançait à pas lents, sans produire le moindre bruit, un homme d'une taille moyenne, la tête découverte, les cheveux blancs, tout en noir et nu-pieds. Il ressemblait à un mendiant. Sur sa figure pâle comme la mort, des sourcils noirs se dessinaient avec netteté. En saluant de la tête avec un air affable, ce mendiant ou ce passant marcha vers le banc de son pas silencieux et vint s'asseoir aux côtés de Coverine, qui reconnut aussitôt le moine noir. Tous les deux se regardèrent. Coverine avec étonnement, le moine ainsi que la première fois, avec une expression maligne comme un homme qui garde son secret pour lui. « Mais puisque tu es un mirage, » prononça Coverine, « comment se fait-il donc que tu demeures là immobile ? Cela ne s'accorde guère avec la légende. »« Qu'importe, » répliqua le moine, après un silence d'une voix basse et les yeux dans les yeux du jeune homme. « La légende, le mirage et moi-même, tout cela n'est que le produit de ton imagination surexcitée. Je suis un fantôme. » « Alors tu n'existes pas ?» demanda Coverine. « C'est comme tu voudras, » dit le moine. Et un faible sourire apparut sur ses lèvres. « Toujours est-il que je vis en ton imagination, et ton imagination est une partie de la nature. Il s'ensuit que moi aussi j'existe dans la nature. Mais tu as une figure vieille, intelligente et combien expressive, » reprit Coverine. On dirait que tu as déjà en effet vécu plus de 1000 ans. Je ne savais pas que ma fantaisie pût créer des phénomènes pareils. Mais qu'as-tu donc à me contempler ainsi avec ravissement? Il paraît que je te plais. Oui, tu es l'un des rares humains que l'on appellerait à bon droit les élus. La cause que tu défends, c'est la vérité, l'éternelle vérité. Oui, tes pensées, tes volontés, ta science digne d'admiration, ta vie entière, enfin, portent l'empreinte divine, céleste, car elles sont vouées à tout ce qui est réseau, à tout ce qui est beauté, c'est-à-dire à tout ce qui est éternel. Oh, tu dis l'éternelle vérité, mais les hommes peuvent-ils y atteindre? Les hommes ont-ils vraiment besoin de l'éternelle vérité, s'il n'y a pas de vie éternelle? Il y en a une, répondit le moine. « Ah oui, tu crois donc à l'immortalité des hommes ?»« Oui, assurément. Vous autres, vous avez devant vous un avenir sublime, un avenir resplendissant. Et plus nombreux seront les hommes pareils à toi, plus tôt cet avenir sera réalisé. Sans vous, qui défendez les principes suprêmes, qui vivez en pleine connaissance de cause, nulle serait l'humanité. » Réduite à se développer graduellement, selon l'ordre des choses, elle atteindrait encore longtemps la fin de son histoire terrestre. Mais vous, les élus, vous avancerez de 1000 et 1000 années l'avènement de la race humaine au royaume de l'éternelle vérité. C'est là votre grand mérite. Vous incarnez la bénédiction de Dieu, c'est par vous qu'elle descend sur les hommes. « Et quel est le but de la vie éternelle ?» demanda Coverine. Mais celui que se propose toute vie, le bonheur, le vrai bonheur est dans le savoir. Or, la vie éternelle offrira d'innombrables, d'inépuisables sources de savoir, et c'est ainsi qu'il faut comprendre cette parole. Il y a plusieurs maisons dans la maison de mon père. Si tu savais quel délice j'éprouve à t'écouter, dit Coverine en se frottant les mains de satisfaction. J'en suis ravi. Mais je sais bien, lorsque tu seras parti, le désir de connaître ce que tu es me tourmentera sans répit. Tu es une apparition, une hallucination. C'est donc que j'ai l'esprit malade, que je n'ai plus ma raison, quoi. Admettons-le. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a d'effrayant? Tu es malade parce que tu t'es surmené? Cela signifie en d'autres termes que tu as sacrifié ta jeunesse à l'idée et que peut-être l'heure est proche où tu lui sacrifieras ta vie. Conçois-tu quelque chose de plus désirable? C'est justement à quoi aspirent tous les esprits supérieurs. Mais si je me suis atteint d'une maladie mentale, puis-je désormais croire en moi-même? Et sais-tu si tous les génies auxquels le monde croit n'avaient pas de vision? Les savants ont bien affirmé que le génie est une forme de la folie. Écoute, mon ami, les hommes ordinaires sont les seuls qui jouissent toujours d'une santé normale. Tous ces raisonnements sur notre siècle névrosé, sur le surmenage, sur la dégénérescence, etc., ne peuvent agiter sérieusement que ceux-là qui bornent la vie au seul moment présent, c'est-à-dire des êtres médiocres. Cependant, les Romains disaient « mens sana in corpore sano ». Non, n'est pas vrai dans les adages des Romains et des Grecs. L'exaltation, l'extase, tout ce qui dans tous les temps distingua des êtres ordinaires, les prophètes, les poètes, les martyrs d'une idée, tout cela trouble les fonctions animales de l'homme, c'est-à-dire sa santé physique. Je te le répète encore une fois, si tu veux jouir d'une santé normale, tu n'as qu'à te joindre au troupeau. N'est-ce pas étrange, mais tu me dis là des choses à quoi je songe bien souvent moi-même, répondit Covrine. Mais c'est à croire que tu m'as épié, que tu as surpris mes plus secrètes pensées. Mais parlons un peu d'autre chose. Que veux-tu dire par la vérité éternelle? Le moine ne répondit point. Covrine le regarda. Mais il ne pouvait déjà plus distinguer sa figure. Les traits en devenaient de plus en plus nébuleux et peu à peu s'effaçaient. Puis la tête et les bras du moine s'évanouirent. Son corps se confondit avec le bois du banc et il disparut entièrement dans le crépuscule du soir. « L'hallucination est finie, » dit Corwin, « c'est dommage. » Et tout joyeux, il se dirigea vers la maison. Le peu que le monde lui avait dit ne flattait pas seulement son amour-propre. Toute son âme en vibrait dans ses fibres les plus intimes. Être l'un des élus, aspirer à la vie éternelle, compter parmi ceux qui avanceraient de mille et mille années l'avènement de l'humanité au royaume de Dieu, c'est-à-dire qui épargnerait à la race humaine mille et mille années de lutte, de souffrance et d'erreur, tout sacrifié à l'idée, jeunesse, vigueur, santé, prêt à mourir pour le bien commun, mais quel sort heureux et sublime! Tout son passé pur, chaste, laborieux lui revint en mémoire. Il se rappela tout ce qu'il avait appris, tout ce qu'il enseignait aux autres, et il estima que les paroles du fantôme n'avaient rien d'exagéré. En traversant le parc, il aperçut Tania qui venait à sa rencontre. « Ah, vous voilà !» s'écria-t-elle. « Oh, et nous qui vous cherchons partout !» « Mais qu'avez-vous donc ?» lui demanda la jeune fille d'un air surpris, en voyant son visage extatique et ses yeux pleins de larmes. « Que vous êtes donc étrange, André ?»« Je suis ravi, ma chère Tania, » dit Covrine en mettant les mains sur les épaules de la jeune fille. « Je suis plus que ravi, je suis heureux. Tania, vous êtes une personne adorable. Ma douce Tania, que je suis heureux !» Il lui baisa les mains avec chaleur et poursuivit. « Je viens de vivre des moments d'allégresse, des instants merveilleux et divins. Mais je ne saurais pas vous les décrire quand vous ne me croiriez pas, vous me croiriez fou. Parlons plutôt de vous, ma chère, ma bonne Tania. Je vous aime et je me suis fait une douce accoutumance de vous aimer. Vous avoir tout près de moi, vous voir 10 fois par jour, m'est devenu un besoin. » J'imagine même pas comment je pourrais me passer de vous lorsque je ne serai plus là. Allons donc, dit Tania en riant, vous vous oublierez au bout de quelques jours. Nous ne sommes que des pauvres gens ordinaires, tandis que vous êtes un grand homme. Mais non, 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 parlons sérieusement, répondit Covrine. Je vous emmènerai, Tania, oui, oui. Voulez-vous partir avec moi? Voulez-vous devenir mienne? « Mais voyons, » dit la jeune fille. Et elle voulut rire encore, mais elle ne le put. Des taches rouges apparurent sur son visage, et sa respiration se précipita. D'un pas rapide, elle se dirigea non vers la maison, mais vers le fond du parc. « Je n'y songeais pas, je n'y songeais pas, » disait-elle en se tordant les mains désespérément. Coverine la suivait avec la même physionomie radieuse. Il disait « Je veux un amour qui me captive tout entier. Cet amour, Tania, vous seule pouvez me l'offrir. Mais je suis heureux, pleinement heureux. » Elle était comme pétrifiée. À l'avoir ainsi pliée en deux, le visage crispé, on eût dit qu'elle avait tout à coup vieilli de plusieurs années. Mais il la trouvait belle et il ne pouvait s'empêcher d'exprimer sa pensée tout haut. « Comme elle est adorable !»